France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and Inger House.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
Une réunion des pays alliés de l'Ukraine à Paris mardi. La France qui prend demain la présidence du G7. Emmanuel Macron qui souhaite laisser une trace à l'international. On va dresser le bilan géopolitique de son année 2025 dans un instant. Des euros en circulation à partir de demain en Bulgarie. Dans le monde à l'endroit, Frédéric Saïs nous parlera de ces pays européens qui résistent encore à la tentation de l'euro. Le reportage d'un jour dans le monde fera étape à New York avec le renouveau du Studio Museum in Harlem. Un musée consacré aux Afro-Américains.
C'est vraiment magnifique. L'architecture est superbe et les œuvres reflètent bien la diversité des points de vue des artistes noirs.
Reportage signé Alexis Demeyer. Dans Sous les radars, Alice Moreno nous expliquera pourquoi les toilettes des dames sont devenues un sujet politique au Japon. Et juste avant 19h dans Chanter le monde, Julien Baldacchino fera le parallèle entre deux comédies musicales mythiques, Chicago et Starmania. Vous avez le plan de vol, allons-y.
Nous continuerons de soutenir tous les efforts de paix. Dans l'entretemps, nous continuerons de soutenir l'effort de résistance de l'Ukraine. Nous continuerons de sanctionner la Russie car il en va de notre cohérence et il en va de notre sécurité.
Дякую, Emmanuel. Дякую тобі велике за.
Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, c'était le 1er décembre dernier. Ils se sont rencontrés une dizaine de fois depuis le début de la guerre. Les deux hommes sont devenus intimes. Mardi prochain, les dirigeants des pays alliés de l'Ukraine, ceux dits de la coalition des volontaires, se retrouveront à l'Elysée pour évoquer un éventuel plan de paix avec la Russie et les garanties à mettre en place pour assurer la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. C'est le dossier international dans lequel le chef de l'État est le plus engagé, le plus visible. Et au moment où la France prend la présidence du G7 demain, eh bien on a envie ce soir de faire le point sur le domaine réservé du président, la géopolitique, domaine d'autant plus important qu'Emmanuel Macron est affaibli au niveau intérieur par une assemblée ingouvernable. Bonsoir Bertrand Badi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Alors Emmanuel Macron a monté cette coalition des volontaires avec le Britannique Keir Starmer. Il a désigné en début d'année la Russie comme une menace pour la France et pour l'Europe. Il multiplie les déplacements, les réunions, les coups de fil. Mais quelle place réelle occupe-t-il dans les négociations, dans les tractations aujourd'hui ?
Alors effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Et le fait qu'on se pose la question montre déjà que la réponse n'est pas claire. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut tenir compte de l'ADN de la vieille Europe, c'est-à-dire de cette Europe qui existe depuis la Renaissance, en quelque sorte. Cet ADN, c'est quoi ? C'est la compétition. C'est un phénomène exceptionnel dans l'histoire du monde qu'un système international se constitue sur un continent à partir du principe de la compétition entre États-nations. De cette compétition, les États européens ont du mal à sortir et on sent bien que chez les plus importants, disons pour l'instant, il y a une rivalité pour avoir le leadership.
Une rivalité avec l'Allemagne et
avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Avec l'Angleterre. On peut encore aller chercher d'autres États, je dirais, en marge de cette oligarchie, mais enfin, il y en a déjà trois, et beaucoup d'énergie est perdue dans le fait de vouloir marquer un point par rapport aux compétiteurs à Berlin ou à Londres ou à Paris. Et puis, par ailleurs, il y a tous les autres qui s'effarouchent de cette situation de leadership, qui ne comprennent pas l'Union européenne comme étant le placement sous la férule d'un État en particulier, et donc qui sont très réticents à ce leadership. Du coup, la question du leadership en Europe n'a jamais été résolue. Emmanuel Macron est parti très fort, puisque dès son élection en 2017, il avait dit qu'il fallait refonder l'Europe, et donc il se donnait en quelque sorte une position de leader potentiel, mais la pratique n'ayant pas suivi, on est resté dans le verbe, et puis tout un tas de blocages dont on parlera tout à l'heure sont venus compliquer sa tâche.
Alors, il aimerait être aussi l'interlocuteur clé de Trump avec l'Europe, mais le président américain, lui, se garde bien d'être exclusif. Quels sont leurs rapports en réalité ?
Tout ça a commencé par une tentative de séduction. Rappelez-vous la visite de Trump en France le 14 juillet 2017.
Oui, là c'était le premier mandat de Trump, oui.
Oui,
c'était plus visible.
Exactement, mais on connaissait déjà le personnage et on avait vu que le président français nouvellement élu voulait jouer la carte de la séduction, espérer être en quelque sorte l'allié privilégié, rôle tenu jusque-là par la Grande-Bretagne, à une époque où la Grande-Bretagne était dans une grande instabilité politique.
Donc, et ça ne marche
pas. Ça n'a pas du tout marché. Ça s'est même traduit par des humiliations lorsque Emmanuel Macron s'est rendu à Washington en visite d'État et où il n'a pas été extrêmement bien traité. Rappelez-vous, Trump époustant la veste d'Emmanuel Macron devant les caméras. Ça, c'était un constat finalement d'échec.
Mais est-ce que globalement, on peut encore considérer les États-Unis aujourd'hui comme un allié de la France et un allié de l'Europe?
Alors vous avez raison de poser cette question, c'est la question fondamentale. Ce qu'il faut voir et comprendre, c'est que la notion d'alliance, en tous les cas dans sa forme pérenne et institutionnalisée, correspondait à la séquence de la bipolarité de la guerre froide, parce que tout le monde y trouvait son intérêt. Les Européens occidentaux y trouvaient une sécurité, une protection face à la menace du glacis soviétique, et les États-Unis y trouvaient un moyen de construire leur hégémonie, au moins leur hégémonie régionale. Les États-Unis ont très vite compris, bien avant Trump, c'est-à-dire déjà c'était très clair sous Barack Obama, qui ne ressemblait pas du tout pourtant à l'actuel président, l'alliance apparaissait aux yeux de Washington comme plus coûteuse que rentable. Et donc il y a eu un choix silencieux chez Obama, ou discret, mais beaucoup plus tonitruant avec Trump, de mettre fin à l'alliance. Nous ne sommes plus dans une logique d'alliance, on est dans une logique de connivence. Cette connivence qu'on voit se construire entre Poutine et Trump, oui. Cette connivence qu'on voit se construire entre beaucoup des pays du Sud, soit entre eux, soit avec les pays du Nord.
Justement, cette connivence, on la sent absolument pas avec l'Europe, hein, puisque dans le document justement de stratégie de défense nationale américaine qui a été dévoilé début décembre, Donald Trump évoque l'effacement civilisationnel de l'Europe.
Oui, pour deux raisons. D'abord, parce que l'Europe est considérée comme un acteur gênant. Il faut voir que le Trumpisme est né avant Trump, c'est-à-dire cet appétit, cette soif de la société américaine de reconquérir une place qu'elle avait perdue. Cette grande déception de la classe moyenne américaine, se voyant damner le pion par les puissances émergentes. Et donc, il était urgent pour quelqu'un qui voulait être élu président des États-Unis d'annoncer « Make America Great Again ». On ne peut pas faire « Make America Great Again » à partir d'une politique d'équilibre avec l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on le fait à partir d'une connivence avec la Russie parce que ça rappelle le duo Brejnev-Nixon. On le fait avec la Chine parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne le fera pas avec l'Europe. Et ça, l'Europe ne l'a pas compris puisque le secrétaire général de l'OTAN, de manière absolument incroyable, continue à appeler Donald Trump « daddy », c'est-à-dire « papa ». Il y a un besoin de l'Europe de garder le parapluie américain parce que l'Europe ne sait pas organiser sa défense.
Alors, l'Europe, restons-y. L'an dernier, lors de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron avait dit, je cite, « L'Europe doit en finir avec la naïveté, dire non aux lois du commerce édictées par d'autres et que nous sommes les seuls à encore respecter. L'Europe, aujourd'hui, elle est prise en étau entre les droits de douane américains et la Chine, dont les produits déferlent sur les 27. Est-ce qu'il a eu raison sur ce constat de naïveté, Emmanuel Macron ?
Oui, mais cette naïveté est reproduite par tout le monde. L'Europe compense cette naïveté par le verbe, c'est-à-dire des belles phrases, soufflées peut-être par des conseillers en communication, mais c'est pas avec ça qu'on fait une politique étrangère, et c'est ça qui est véritablement dangereux. Je vais vous donner un seul exemple. Le 24 février 2025, le 24 février dernier, 3 ans d'anniversaire du déclenchement du conflit russo-ukrainien, les États-Unis déposent devant le Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution très favorable à la Russie, qui ne fait même pas mention du droit de l'Ukraine à l'intégrité territoriale. Que font les deux pays européens membres du Conseil de sécurité détenteurs du droit de veto. Ils s'abstiennent. C'est-à-dire, au lieu de montrer et de pratiquer leur puissance, vous voyez, ça aurait été une pratique de la puissance, ils se contentent de verbes. Si, en matière de puissance, vous vous contentez du verbe et que vous montrez votre refus d'utiliser vos instruments de puissance, vous n'êtes plus crédible. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui.
Alors, j'aimerais qu'on en vienne au 22 septembre. Ce jour-là, il y a eu sans doute le moment le plus fort pour Emmanuel Macron en 2025. Il est monté à la tribune des Nations Unies pour reconnaître officiellement l'État de Palestine. La France a entraîné un certain nombre de pays dans son sillage. Il y en a 142 aujourd'hui qui reconnaissent cet État de Palestine. C'est un acte fort ou surtout symbolique ?
Alors, c'est un acte symbolique de toute façon. La reconnaissance en droit international d'un État par un autre État, c'est un acte fondateur, donc il est symbolique d'une volonté de reconnaître l'autre, mais il reste symbolique s'il n'est pas accompagné d'une action. C'est toujours la même chose. On revient à la même case que tout à l'heure. Le véritable enjeu, ce n'est pas de dire « Ah oui, l'État palestinien existe ». Le véritable enjeu, c'est de se placer ou de placer le monde dans une situation qui rend possible et même attendu la création d'un État
c'est
palestinien.
C'est ça, la solution à deux États.
Oui.
Qui n'est pas la référence centrale dans le règlement de paix aujourd'hui.
Qui est totalement ou presque totalement absente du fameux accord de Sharm el-Cheikh d'octobre dernier, où il est dit une phrase extrêmement tortueuse, de trouver une solution politique. Mais une solution politique, ce n'est pas la création d'un État. Or, l'État d'Israël a déclaré, le gouvernement israélien a déclaré très nettement et à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de créer un État palestinien. Si donc la France et les 9 autres pays qui l'ont accompagné se contentent d'un acte juridique de reconnaissance sans penser à un processus qui rendrait cette création réelle, évidemment tout cela, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Alors quand je vous écoute, Bertrand Badie, j'ai l'impression que vous nous racontez en fait que la France est une ancienne puissance. Est-ce que sa voix porte encore aujourd'hui, la voix de notre pays ?
Alors, il faut faire attention. La France, comme beaucoup de pays européens, ont beaucoup d'instruments de puissance à leur disposition. Je vous parlais du droit de veto au Conseil de sécurité, ça c'est pratico-pratique. Mais on peut prendre d'autres éléments. Pensez par exemple que la France est l'Union européenne est la première puissance commerciale dans le monde. La première puissance commerciale dans le monde. On peut tenir compte aussi du fait que l'Union européenne dispose d'un réseau transnational dans le monde qui est extrêmement puissant. Le problème, il est double et il aboutit à chaque fois à un refus de puissance. L'Europe, je ne dirais pas qu'elle n'a pas la puissance. La France, je ne dirais pas qu'elle n'a pas la puissance. Je dirais qu'elle refuse la puissance. Pourquoi ? Il y a double blocage. D'une part, parce que l'Europe est plus intéressée par ses compétitions internes que par sa construction.
On en revient au début de notre conversation.
Oui, mais c'est l'élément fondateur. Et l'autre élément, c'est que l'Europe n'a jamais véritablement admis la mondialisation et compris comment la gérer. Pour gagner, pour être puissant aujourd'hui, il faut pouvoir s'appuyer sur la mondialisation au lieu de la nier.
La France prend la présidence du G7 demain, les 7 grandes démocraties les plus industrialisées. Il y aura un sommet en juin à Évian. Est-ce que le G7 a encore un sens aujourd'hui, a encore une influence ?
Le G7, c'est un club. On appelle ça la diplomatie de club. On appelle ça aussi le mini-latéralisme. C'est un club, et c'est un club, vous l'avez dit, d'occidentaux, c'est-à-dire qui ne représente que l'un des versants de notre espace mondial dans sa complexité actuelle. Donc, effectivement, se concerter entre occidentaux, c'est pas totalement inutile, mais nous sommes, je le disais il y a un instant, dans la mondialisation, rien ne peut se faire autrement que dans une concertation mondialisée. Et là, le G7, non seulement ne le fait pas, mais fait peur à ceux qui sont extérieurs, qui le prennent pour une oligarchie.
J'ai une dernière question rapidement. Il reste un an et demi à Emmanuel Macron à l'Élysée. Les Américains ont une expression pour ça, ils appellent ça le canard boiteux. C'est l'élu qui arrive en fin de mandat et qui a perdu de son influence. Quelle trace peut-il encore laisser dans l'histoire, rapidement ?
Ben, je crois qu'il laissera la trace, effectivement, d'une sorte d'incompréhension avec la société civile. C'est un point sur lequel il faut quand même insister. Les relations internationales, elles passent par la société. Vous parliez de la reconnaissance de l'État de Palestine, elle n'aurait pas été possible sans cette mobilisation forte de l'opinion publique française. Or, on a toujours eu l'impression depuis 2017 qu'il n'y avait pas de compréhension entre le chef de l'État et la société. Faire des bonnes relations internationales aujourd'hui, c'est comprendre sa société et agir avec elle.
Merci infiniment, merci Bertrand Badie d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde. Votre prochain essai, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paraîtra prochainement chez Odile Jacob. Bonne soirée à vous. À suivre Frédéric Saïs, de la monnaie dans le monde à l'endroit ce soir.
Ce soir, la Bulgarie entre dans la zone euro, mais il reste 6 pays européens qui refusent d'adopter la monnaie communes, qui sont ces irréductibles et pourquoi.
Et ce sera juste après ça, Alani, This is why.
This is why, when you tell me that you love me, something you said, oh, a million times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do. When mixed with an I love you, you make me feel like I can only die. You make me hot in December. Even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the I'm scared.
La bossa chez cette jeune chanteuse britannique, un extrait de son dernier album, le bien nommé Sunshine Music. Le monde à l'endroit, Frédéric Saïs.
How dare you?
World has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Et vous nous parlez de ces pays européens qui refusent de passer à l'euro.
Et les courses du réveillon en Pologne ont été payées en zloty, comme chaque année. À Prague, les emplettes ont été réglées en couronne tchèque. Les Hongrois, eux, ont dépensé leur florin. Les Roumains, leur lei. Les Suédois et les Danois, leur couronne. En tout, 6 pays sur 27 dans l'Union européenne font encore et toujours de la résistance, Christelle. Au moment pourtant où la zone euro ne cesse de s'étendre, la Bulgarie y entre donc ce soir. Il y a 2 ans, c'était la Croatie. Alors, pour quelle raison raison. Ce club des six nations refuse-t-il de passer à la monnaie commune? Comment expliquer, plus de deux décennies après la création de l'euro, qu'il reste ainsi des irréductibles? Précisons d'abord que parmi ces six pays, les raisons du refus ne sont pas du tout les mêmes.
Alors commençons par la Hongrie. Là, il est question de souverainisme.
Oui, le Premier ministre Viktor Orban ne cache pas son mépris, sa méfiance pour les institutions européennes. Encore récemment, il a rejeté l'entrée dans la zone euro. Motif, je cite, « L'Union européenne est en train de se désintégrer. En somme, il ne faudrait pas s'arrimer à un bateau qui coule. » Attention, cette position ne fait pas consensus en Hongrie. Loin de là, dans les sondages, deux tiers des Hongrois sont favorables à l'euro. Cette question sera d'ailleurs au centre de l'élection du printemps prochain. Le chef de file de l'opposition, il s'appelle Péter Magyar, s'est dit récemment favorable à l'adoption de la monnaie commune. Parmi les irréductibles figure aussi la Pologne. La monnaie y est encore plus qu'ailleurs un enjeu d'identité nationale dans ce pays historiquement déchiré par les guerres, les invasions, les partitions. Alors il se trouve peu de voix dans la classe politique pour plaider la disparition du zloty, la devise actuelle. Même le Premier ministre libéral Donald Tusk n'évoque le sujet que du bout des lèvres. L'adoption de l'euro nécessiterait en plus une révision de la Constitution, ce qui est quasiment impossible à cause de la cohabitation au sommet du pouvoir polonais en ce moment entre les conservateurs et le président nationaliste.
Alors, autre pays qui a gardé sa monnaie nationale, la Roumanie. Mais pour le coup, Frédéric, c'est pas de gaieté de cœur.
Non, la Roumanie voudrait, mais ne peut pas adhérer à l'euro. En tout cas, pas pour l'instant. Bucarest ne remplit pas les critères européens. Le déficit roumain est bien trop élevé. 9% l'an dernier, en proportion, c'est deux fois celui de la France, ce qui n'est pas peu dire. L'économie roumaine est aussi lestée par son inflation. L'inflation qui tutoie les 10% par an. Bref, la Roumanie piaffe à l'entrée du club, mais pour l'instant, elle n'est pas admise.
Et puis, il y a les pays qui sont en bonne santé économique, mais qui préfèrent garder leur monnaie.
Oui, la République tchèque et surtout les pays scandinaves, le Danemark et la Suède, sont des membres anciens déjà de l'Union européenne et ils ont toujours choisi de se tenir à distance de l'euro par référendum, même dès le début des années 2000. Ces pays ont une tradition d'indépendance monétaire, m'explique Pierre Jaillet, économiste et chercheur pour l'IRIS et l'Institut Jacques Delors. Et puis, soyons francs, la Suède et le Danemark répugnent à placer leurs finances gérées au cordeau dans le grand maelstrom de la zone euro avec les pays du sud de l'Europe, France incluse, qu'ils voient comme de dangereux dépensiers compulsifs.
Merci Frédéric, à demain.
The building says to the world, Harlem matters, black art matters, black institutions matter.
C'était le 15 novembre dernier à New York, le vibrant discours d'inauguration du Studio Museum in Harlem. Ce musée consacré aux artistes afro-américains ouvre ses portes, ou plutôt les rouvre. L'institution existe depuis 1968. Mais les collections et les locaux étaient vieillissants. Alors il y a 10 ans, le conseil d'administration a décidé de repartir de zéro. Un magnifique bâtiment d'architecte a vu le jour pour un budget de 160 millions de dollars. Le chanteur Usher, le réalisateur Spike Lee ou encore l'écrivain Colson Whitehead ont mis la main à la poche. Dans l'Amérique de Trump, un musée mettant en lumière des artistes noirs aux œuvres parfois très engagées. Ça ressemble fort évidemment à un acte de résistance. La suite, c'est Alexis de Meyer qui la raconte depuis Harlem.
Un immense drapeau américain flotte à l'entrée du musée, mais il est vert, noir et rouge, les couleurs du panafricanisme, et il est signé David Ammons, l'une des figures dans les années 60 du Black Arts Movement. Nous sommes sur la 125e rue d'Harlem, juste en face du mythique Apollo Theater, et au croisement hautement symbolique des boulevards Martin Luther King et Malcolm X.
Welcome to the Studio Museum in Harlem.
Déployé sur 7 niveaux, la superficie du musée a triplé par rapport à l'ancien site. Parmi les tout premiers visiteurs, Delila est venue en voisine.
C'est vraiment magnifique. L'architecture est superbe et les œuvres reflètent bien la diversité des points de vue des artistes noirs. L'art des Afro-Américains est encore trop souvent relégué à l'arrière-plan dans ce pays. Donc je pense qu'avoir un endroit spécialement pour eux, c'est vraiment nécessaire. J'avais visité la précédente version du musée. J'habite à côté, donc j'ai été témoin des longs travaux. C'était un chantier impressionnant. Le résultat est à la hauteur de mes attentes.
Les expos temporaires côtoient l'impressionnante collection permanente et ses chefs-d'œuvre signés Fess Ringgold, Kerry James Marshall ou Jean-Michel Basquiat. Thelma Golden est l'emblématique commissaire du musée.
Les fondateurs étaient aussi bien des artistes que des activistes, des philanthropes et des politiciens qui ont beaucoup bataillé pour implanter cette institution avec un cahier des charges bien défini. Le Studio Museum est une institution noire qui reste attachée à l'idée de mettre l'expérience noire au centre des préoccupations. Ce musée a toujours évolué dans un contexte sociétal particulier et il contribue au dialogue sur ce que cela signifie d'être noir aux États-Unis, jusqu'au plus profond de nous.
Son implantation en plein cœur d'Harlem sonne donc comme une évidence. Et si le bâtiment, avec son auditorium, son café et même sa salle de classe, est d'une grande modernité, il puise aussi beaucoup dans l'héritage du quartier, selon son architecte, Aaron Flynn.
Ce bâtiment est vraiment un témoignage de la culture afro-américaine. La façade est composée de blocs de béton préfabriqués très sombres. Certains ont un aspect brillant et d'autres sont rugueux car mélangés à du sable. Il y a d'immenses baies vitrées qui permettent de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Le design prend vraiment en compte le concept du musée qui est très inclusif et donc tourné vers la rue. Il faut dire que la 125e rue d'Harlem est vraiment inspirante. Je ne connais personne qui peut rester triste en marchant sur ces trottoirs car l'atmosphère est remplie d'énergie et de vitalité.
À ses côtés, Raymond McGuire, le président du conseil d'administration du musée, ne peut qu'acquiescer.
Désormais, les artistes afro-américains et afro-descendants ont un musée où leurs histoires sont racontées et où leurs œuvres sont valorisées. Ces œuvres sont d'ailleurs bien souvent à l'avant-garde de l'art contemporain. Nos artistes comptent, et tout particulièrement dans la période que nous traversons. Ce lieu est leur maison, leur refuge, et même une scène sur laquelle ils peuvent nous faire admirer leur talent. Tous ces artistes racontent leurs espoirs pour résister aux tensions qui nous entourent. Nous sommes là, maintenant, et nous en sommes fiers.
Dans la lignée du MoMA, du Met et du Guggenheim, New York vient donc de se doter d'un nouveau lieu d'exposition de premier plan. Mais la portée politique du Studio Museum, elle, reste unique dans le paysage culturel de la ville.
Alexis Demeyer pour le reportage. La suite, c'est l'actualité passée sous les radars mais qui n'a pas échappé à Alice Moreno.
Et direction les côtes anglaises où des cimetières risquent d'être engloutis par la mer.
Et chantez le monde avec vous, Julien Baldacchino.
On va voir comment les comédies musicales ont un œil sur les médias et sur la fascination qu'ils entraînent.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter. On prend la machine à remonter le temps. On se cale sur l'année 1972. Bill Withers, Use Me.
Until you use me up.
Use Me, l'un des succès de l'américain Bill Withers. C'est le dernier choix musical de Djoubaka pour 2025. Alice Moreno sous les radars.
Communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali prend acte de la décision des autorités américaines de renforcer les restrictions d'entrée aux États-Unis concernant les ressortissants maliens.
La télévision malienne annonce la riposte diplomatique aux restrictions américaines sur les visas.
Mi-décembre, l'administration américaine rendait publique une liste de pays dont les ressortissants ne pourront plus obtenir de visa pour les États-Unis. Les citoyens de Palestine, du Niger, du Soudan du Sud, de Syrie, du Mali, du Burkina Faso et de Sierra Leone sont concernés. Une mesure radicale justifiée par le gouvernement américain qui évoque des questions de sécurité dans un contexte de durcissement de la politique migratoire menée par l'administration Trump. La mesure prévoit toutefois des exceptions pour les résidents permanents légaux, les titulaires de visas existants ou ceux délivrés aux athlètes et aux diplomates, et pour les personnes dont, je cite, « l'entrée sert les intérêts nationaux des États-Unis ». Deux des pays concernés par ces mesures, le Mali et le Burkina Faso, répliquent aujourd'hui. Les deux gouvernements ont annoncé prendre des mesures de réciprocité équivalentes aux restrictions américaines. Autrement dit, aucun citoyen américain ne peut prétendre à un séjour dans ces deux États du Sahel, à part les exceptions que j'ai cité un peu plus tôt. Aucune communication officielle n'a pour l'heure émané du Niger sur le sujet des visas, mais la semaine dernière, l'agence nigérienne de presse avait évoqué une mesure similaire, citant une source diplomatique.
La nuit, je peux entendre et sentir la puissance de la mer.
C'est le témoignage d'une habitante de la côte de Norfolk, un comté anglais donnant sur la mer du Nord et particulièrement exposée à un phénomène d'érosion accélérée. Des habitants sont régulièrement inquiets pour leur maison et sont contraints de déménager. Et si les vivants sont forcés au départ, l'inquiétude s'étend désormais au cimetière, avec ses pierres tombales plantées dans ses falaises verdoyantes et qui menacent de s'effondrer. Le conseil du district de Norfolk a récemment identifié 3 cimetières qui pourraient être engloutis par la mer dans les années à venir. Mais les proches des défunts ne parviennent pas à s'accorder sur une solution. Faut-il exhumer les corps, déplacer les tombes ou accepter la fatalité? Les autorités locales assurent que plusieurs options sont à l'étude et renvoient la balle au diocèse de Norwich, responsable des cimetières. Quelle que soit l'issue, les familles sont hantées par l'idée que leurs proches ne puissent pas reposer en paix, comme en témoigne Franck, dont les parents sont enterrés dans une zone identifiée comme menacée. Il confie ainsi au Guardian « Cela me bouleverse, mes parents souhaitaient que ce soit leur dernière demeure. Ce ne sera sans doute pas le cas. »
Le fait qu'une femme ait été choisie montre que le Japon est en train de changer.
C'est en tout cas l'espoir de cette jeune femme japonaise, heureuse de l'arrivée de Sanae Takaishi au poste de première ministre, celle qui est souvent surnommée la Dame de Fer en référence à son idole Margaret Thatcher, se lance dans une lutte pour le moins inattendue. Elle est signataire d'une pétition lancée par des parlementaires japonaises pour réclamer davantage de toilettes pour femmes dans le bâtiment du Parlement. Il y a aujourd'hui 2 cabinets de toilettes seulement pour 70 femmes. Si le paysage politique japonais a laissé plus de place à la gente féminine ces dernières années, les infrastructures, elles, n'ont pas suivi. Voilà qui devrait donc rétablir une forme d'égalité sur un sujet purement logistique. Mais ne nous y trompons pas, Sanae Takaishi est une ultra-conservatrice, y compris sur les questions sociales. Elle s'est par exemple opposée à la révision d'une loi du 19e siècle imposant aux couples mariés de porter le nom du mari, qui est un sujet très important dans la société japonaise. Elle souhaite également que la succession impériale soit exclusivement réservée aux hommes, des positions qui reflètent une vision traditionnelle des rôles de genre et de la famille.
Merci Alice, et à demain.
France Inter, un jour dans le monde.
Les livres racontent le monde, mais les comédies musicales aussi. Julien Baldacchino, pour les fêtes de fin d'année, vous explorez ces comédies musicales venues des États-Unis et de France. Et aujourd'hui, c'est leur regard sur les médias qui vous a intéressé.
Et la comédie musicale américaine qui a le regard le plus acerbe sur le monde médiatique, on a tendance à plutôt l'associer au cabaret, à la danse et au jazz. Il s'agit de Chicago. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down.
and all that jazz.
Car c'est sous ces airs de comédie musicale jazzy, ce spectacle qui est aussi à l'affiche en ce moment en France au Casino de Paris. C'est une histoire de faits divers et de passion pour la célébrité. Deux meurtrières qui attendent leur procès et qui, avec l'aide d'un avocat manipulateur, font tout pour s'attirer les faveurs de la presse en devenant l'accusé idéal. Tout ça, dans le spectacle, il y a une chanson qui en parle très clairement. Elle s'appelle « Razzle Dazzle », traduite en français par « De la poudre aux yeux ».
Give them the old razzle dazzle, razzle dazzle on. Give them a show that's so splendiferous, row after row will grow vociferous. Give them the old flim flam flummox, fool and fracture them.
La recette magique pour en mettre plein les yeux de la presse à scandale. Et ce n'est pas un hasard si le regard sur les journaux de l'époque est acéré. Chicago, la comédie musicale, est inspirée d'une pièce de théâtre des années 20, elle-même inspirée d'un fait divers. Et la dramaturge qui a écrit cette pièce, Maureen Dallas Watkins, eh bien elle a commencé sa carrière comme journaliste au Chicago Tribune, un journal local.
Et tout ça, évidemment, rend la pièce toujours très actuelle.
Oui, parce qu'au fond, notre rapport au voyeurisme et au sensationnalisme n'a pas tant changé. J'ai pu en parler avec Max von Essen, l'un des interprètes de l'avocat Billy Flynn dans Chicago à Broadway.
Sometimes people ask us at the stage door.
Parfois, les gens nous demandent à la sortie des artistes si nous avons changé le livret pour l'adapter à ce qui se passe dans la politique, dans le monde. Non, pas un mot n'a été changé depuis la version originale du spectacle dans les années 70. Je commence ma chanson en parlant d'un grand cirque à trois pistes. Ce procès, le monde entier, tout est du show business. C'est incroyable de voir à quel point les gens s'identifient aux célébrités, aux faits divers. Ça fait penser aux réseaux sociaux, à TikTok, aux followers, alors que tout ça a été écrit pour la première version dans les années 70.
La fin de l'histoire, elle est tout aussi cruelle. Sitôt acquittés, les deux meurtrières retombent dans l'anonymat. Il leur faut bien un dernier numéro de cabaret pour se remettre dans la lumière.
Et cette recherche de la lumière et ce jeu avec les médias, on le retrouve aussi dans un spectacle français.
Un spectacle mythique qui annonce la couleur dans son titre, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, ressuscité il y a quelques années par Thomas Joly. Vous aurez sûrement reconnu Starmania. Dans Starmania, qui est d'ailleurs le titre de l'émission télévisée animée par le personnage de Cristal, ici France Gall, dans le spectacle, tous les personnages ou presque rêvent de lumière dans une ville sombre. Et c'est le journal télévisé qui est le narrateur des événements qui se déroulent sur scène.
Ici Roger, Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, encore les étoiles noires. Ce mouvement terroriste vient d'allonger la liste de ses crimes gratuits. En effet, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une centaine de personnes ont bien failli perdre la vie.
Cette fois, c'est Luc Lafitte qu'on entend dans le rôle du journaliste Roger Roger en 1988. Il n'y a que trois thèmes abordés dans les infos dans Starmania. La violence, les paillettes, le star system et la campagne électorale, puisque dans Starmania, il est question d'une lutte pour la présidence de l'Occident. Or, le candidat principal, Zéro Janvier, qui surfe sur l'insécurité, utilise aussi les paillettes et les médias pour construire son image. Il le dit très clairement dans une chanson nommée « Mass Media ».
Sans vous, je ne suis rien.
Mass Media.
Je suis entre vos mains.
Mass Media, Mass Media.
Mais je vous le rends bien.
Mass Media, Mass Media.
Je vous tiens dans ma main.
C'est tellement actuel, hein. C'est du storytelling, Julien, et de la communication politique avant l'heure.
Et oui, et ça ressort dans l'un des tubes du spectacle, le blues du businessman, le fameux « J'aurais voulu être un artiste ». Oui. Ce qu'on sait moins, c'est que quand Zéro Janvier, le personnage chante « J'ai du succès dans mes amours, j'ai du succès dans mes affaires », en réalité, il répond à une question de l'animatrice Cristal.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, j'ai devant moi un homme que toutes les femmes voudraient connaître. Pour un instant, Zéro Janvier, je vous demanderai d'oublier le businessman riche et célèbre. Ma question, vous la connaissez, si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui vous voudriez être.
Et ce blues du businessman, ce qui semble être un cri du cœur, en fait, c'est un acte de communication de notre personnage. Tendez l'oreille, vous allez entendre dans cet extrait de la version 2022 un petit silence rajouté par Thomas Joly dans la chanson qui montre bien à quel point le personnage fait monter la pression avant le grand final. Il sait très bien ce qu'il fait.
J'aurais voulu être un artiste. Pourquoi j'existe.
Magnifique ce silence.
David Latulippe dans la dernière version de Starmania, l'ultime représentation, c'était il y a un an tout pile. On espère revoir le spectacle un jour sur scène et surtout on fait un grand salut à toute la troupe et aux équipes techniques du
et
spectacle.
Et on vous salue, vous merci Julien. À l'année prochaine, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h présenté par Damien Mestre. Puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, on fait ami-ami ce soir.
Mais oui, on parle de l'amitié, les amis de ce soir pour le réveillon, les amis de toujours, les amis en ligne, l'amitié, valeur refuge. Florence, une amie que je connais depuis très longtemps, mais de qui je me suis rapproché que très récemment. On se parle tous les jours. C'est comme une sœur, une autre, beaucoup plus jeune que j'aime sans condition. Je ne peux pas me passer d'elle, Julie. Aujourd'hui, en pleine séparation, je trouve dans mes amis uniquement des femmes une écoute et un partage d'expériences qui me réconfortent. J'avoue ne trouver le même genre d'échange auprès des hommes.
Merci, à tout à l'heure. Rendez-vous 19h20, on compte sur vous pour nous raconter vos belles histoires d'amitié. À tout de suite.